vive voix, nos territoires prennent la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Comment peut-on former les managers du service public de demain à de nouvelles pratiques managériales, me direz-vous ? Comme vous, je me pose aussi cette question, et pour avoir quelques éléments de réponse à ce sujet, je vous propose d'écouter notre émission où j'ai le plaisir de recevoir M. Nico Nassil, le directeur des ressources humaines du département de la Moselle. Il va partager avec nous le projet d'une école de cadres et d'encadrants internes qui a été mise en œuvre au sein de sa collectivité. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Comme je viens de le dire, Nicolas, vous êtes le directeur des ressources humaines au sein du département de la Moselle. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre collectivité ?
Oui, bien sûr. Alors, le département de la Moselle, c'est une collectivité territoriale avec un peu plus d'un million d'habitants. Comme tout département, c'est une collectivité de proximité. Et donc, un département qui est un acteur incontournable, garant de la solidarité des personnes et des territoires. Alors, nos domaines de compétences sont relativement classiques hein, pour une collectivité territoriale de type département. Elles s'exercent à la fois dans le domaine social, bien entendu. Hein, où nous avons pratiquement un tiers de nos effectifs hein, qui exercent dans le domaine social avec des compétences clés, comme l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, l'aide aux personnes âgées, handicapées, la gestion du RSA, mais également d'autres domaines de compétences, notamment les routes et les constructions. Hein. Nous gérons un réseau routier départemental de 4300 km. Nous intervenons également dans la construction et l'entretien des collèges publics du département. On intervient également sur la politique environnement, qualité de vie, l'aménagement du territoire, dans le domaine de la jeunesse et des sports également, et aussi sur le champ culturel et touristique, où en dehors des compétences, on va dire, classiques et réglementaires, que sont les archives publiques et la lecture publique, le département est également propriétaire de sites appelés sites passionnément Moselle, qui développent une offre à la fois culturel à travers des musées, mais également des sites naturels. Donc, bien entendu, pour gérer l'ensemble de ces missions-là, nous avons également des directions fonctionnelles, les finances, les ressources humaines, l'informatique, les moyens généraux. En tout, nous pouvons compter sur 3000 agents hein, qui exercent au quotidien l'ensemble de ces missions, 3000 agents au niveau de la collectivité, un peu plus de 350 cadres encadrants, auquel il convient également de rajouter 80 gestionnaires de collèges, puisque ces personnels de l'éducation nationale gèrent et encadrent nos agents techniques d'entretien et de restauration qui interviennent au niveau des collèges. Donc, eh bien, toute cette diversité de compétences se traduit également dans un nombre important de métiers exercés au sein de la collectivité départementale, 140 métiers. Là aussi, avec du coup une somme et une diversité assez impressionnantes, puisqu'on a des métiers, on va dire, administratifs plus classiques, comptables, juristes, secrétaires, mais également nous avons des assistantes sociales, des puéricultrices, des sages-femmes, des médecins, des informaticiens, des ingénieurs dans le domaine des routes, des techniciens également dans le domaine des routes, des bibliothécaires, des archéologues, des pisciculteurs, bref, 140 métiers au service donc de l'exercice des missions de la collectivité départementale.
Effectivement, au regard de ce que je viens d'entendre, je suppose qu'une direction de ressources humaines comme la vôtre a dû très tôt adapter ses pratiques à une grande variété de situations professionnelles et d'environnement de travail. Est-ce le cas ?
Oui, bien sûr. Et d'autant plus que la direction des ressources humaines s'est positionné sur l'accompagnement des politiques publiques gérées par les différentes directions de la collectivité. Alors, en dehors du cœur de métier classique hein, d'une DRH, c'est-à-dire la gestion administrative du personnel, nous avons développé aussi des outils pour porter une réflexion à la fois sur les effectifs et sur les compétences, non seulement sur l'existant, mais également dans une approche prospective et ce, dès les années 1995, avec la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, l'objectif à l'époque, c'était de savoir qui nous étions, mais pas seulement dans le cadre d'une identité statutaire, déclinée en catégories, filières, cadres d'emploi, grades, mais aussi ce que nous faisions, et donc d'avoir une meilleure connaissance de notre identité professionnelle, donc déterminer l'ensemble des métiers exercés au sein de la collectivité. Donc, c'est dès les années 1995, entre 95 et 98, que nous avons construit, on va dire, notre démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, identifier les métiers pour mener une réflexion RH permettant de faciliter à un moment donné l'adéquation des besoins de la collectivité par rapport à ses ressources existantes. Donc, ce qui nous a semblé essentiel, c'était aussi de pouvoir mesurer si nous étions prêts, à la fois en termes d'effectifs et de compétences, à mettre en œuvre les politiques votées par l'Assemblée départementale. Et cette démarche, qui se poursuit aujourd'hui, à structurer et irrigue encore de manière durable nos différentes politiques sectorielles en matière de gestion de ressources humaines.
Et votre vision prospective, donc cette recherche prospective, cet éclairage prospectif que vous avez mis en place, a nécessité des accompagnements, des choses de ce genre?
Oui, alors nous avons travaillé là aussi dans le cadre d'une démarche essentiellement interne, puisque cette démarche de GPEC s'est structurée autour notamment de la mise en place d'observatoires métiers. Donc il s'agissait, en mettant en place des observatoires métiers, d'étudier l'évolution des métiers dits sensibles ou stratégiques pour la collectivité, que ce soit sous l'angle quantitatif et qualitatif. Donc c'est une organisation, on va dire, essentiellement interne, en intégrant notamment dans ces réflexions d'observatoire métier des personnes représentatives du métier exercé, parce que qui mieux que les agents eux-mêmes ont une vision claire et précise à un moment donné de l'évolution de leur métier liée à l'environnement aussi qui a un impact important sur ces conditions d'exercice. Alors parmi ces premiers métiers, nous avons mis en place un observatoire du métier de cadre, donc dès la fin des années 1986. Donc on a travaillé avec un panel représentatif de cadres, et dans le cadre de ces études, nous sommes arrivés à un double constat, quantitatif et qualitatif. Premier constat, tout d'abord, quantitatif, un départ annoncé assez important de nos cadres de proximité dans les 10 prochaines années. Donc c'est environ 50% de l'effectif de nos cadres qui allait partir à la retraite, donc c'est lié à une étude sur la pyramide des âges, et donc un besoin d'encadrement renforcé pour pallier ces absences. Autre constat que nous avions réalisé alors, un constat qualitatif cette fois-ci, c'est-à-dire un besoin d'accompagner, voire de renforcer les compétences managériales de nos cadres. Et au-delà d'ailleurs de cet accompagnement, créer une véritable culture commune de management qui transcende, on va dire, un peu la vision classique, une perception, on va dire, des cadres dans une ligne métier professionnelle.
Et dites-moi si je me trompe, est-ce que c'est à partir de là qu'est née l'idée de créer une école pour vos cadres et encadrants?
Tout à fait, c'est un petit peu l'embryon de cette école de management, j'y reviendrai, qui chez nous s'appelle l'Institut du management permanent, puisque dans ces deux constats, nous avons tenté de répondre, en tous les cas, à ces besoins, en utilisant à un moment donné justement les leviers et les politiques RH de la collectivité. Alors sur le besoin quantitatif, nous avons mis en place ce qu'on appelle un dispositif pépinière dès la fin des années 90 et dès le début des années 2000. Dispositif pépinière qui a consisté à recruter de jeunes cadres attachés sur liste d'aptitude et de les former à l'exercice de leur fonction managériale en organisant pendant plus d'un an un parcours de formation leur permettant de pouvoir justement se confronter à des réalités et à des problématiques managériales avec des compétences, avec la mobilisation de compétences transversales. Donc ils étaient positionnés au sein de directions opérationnelles pendant un an sur des projets plus ou moins techniques leur permettant justement d'acquérir cette compétence managériale. Au bout d'un an, ces personnes, ces cadres, ont été positionnés sur des postes vacants de cadres à responsabilité en dehors de la direction où ils ont exercé leur mission. Donc cela a permis déjà de s'affronter à une première mobilité en interne et d'investir véritablement sur des compétences dont ils estimaient nécessaires et qu'on estimait nécessaires pour ensuite qu'ils puissent exercer justement leur responsabilité de cadre et pas de focaliser directement sur l'acquisition des compétences techniques comme on avait pu le constater auparavant lorsqu'on nommait un cadre directement sur un poste opérationnel. Donc ce dispositif pépinière nous a permis de recruter une quarantaine de jeunes cadres qui encore aujourd'hui pour la plupart sont présents au sein de la collectivité et qui constituent justement un petit peu les prémices de cette école de cadres. Deuxième axe, par rapport à ce constat qualitatif, nous avons développé un plan de formation au management pour l'ensemble des cadres de la collectivité avec un tronc commun obligatoire et une boîte à outils au sein de laquelle chaque cadre pouvait trouver un accompagnement sur on va dire, ses besoins en compétences managériales. Donc, en tous les cas, effectivement, ces éléments sont un petit peu fondateurs de notre culture managériale.
Nicolas, après plusieurs années, comment ce projet vit-il ?
Alors, ce projet, qui n'en est plus un aujourd'hui, vit toujours et vit encore. Hein. Alors, il a certes évolué, mais toujours en s'adaptant au contexte et aux enjeux nouveaux auxquels nous devons faire face. Alors, ce projet constitue désormais une démarche intégrée dans le système de management de la collectivité. Cet accompagnement des cadres a été renforcé par la volonté du directeur général de créer en 2013 un institut du management permanent. Alors, cette création de l'institut part de l'idée selon laquelle, aujourd'hui, être cadre ne suffit plus. Il faut agir en cadre. Or, l'action, pour être toujours efficace, doit s'entretenir en permanence. Donc, si je devais résumer, le rôle du manager s'élargit et sa légitimité technique, encore une fois, aujourd'hui, ne suffit plus. Ce qui doit caractériser le management, et c'est toute l'idée qui sous-tend cet institut du management permanent, c'est la capacité de mettre en synergie les compétences des collaborateurs, de décider et donc d'arbitrer, de proposer et de promouvoir à un moment donné des orientations afin d'accompagner le changement, de faire émerger au sein des équipes des solutions nouvelles. Et tout cela nécessite de créer des conditions à l'exercice de la responsabilité managériale. C'est de cette idée-là que vient la création et l'incarnation même de l'Institut du management permanent tel qu'il est mis en place au sein de la collectivité depuis 2013.
Concrètement, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne cet institut ?
Alors, encore une fois, l'Institut du management, et vous l'avez bien précisé, Jean-Michel, ne se résume pas à une école. Hein. Sa vocation, elle est plus ambitieuse, parce qu'il s'agit à la fois de doter les cadres d'un bagage de compétences communes, partagées, mais aussi, c'est important, et c'est ce qui légitime aussi le fonctionnement de cet institut, de les doter d'outils leur permettant d'exercer pleinement leurs responsabilités managériales. Et pour exercer ces missions de cadre, il faut non seulement savoir faire, mais également pouvoir le faire, donc avoir l'occasion d'exercer à un moment donné ses responsabilités. Donc ces deux éléments, que sont le savoir-faire et le pouvoir-faire, sont essentiels au sein de l'Institut du management permanent, qui du coup va se décliner en propositions de formation, mais également en mise à disposition d'outils au niveau des cadres pour l'exercice de leur responsabilité managériale. Alors très concrètement, sur le premier registre, l'Institut du management permanent se décline par une offre de formation, mais également par l'organisation de séminaires. Alors en termes de formation, il y a des formations obligatoires, notamment suivant la prise de fonction, par exemple l'entretien professionnel annuel, puisque l'entretien professionnel est un concentré d'exercice de la responsabilité managériale entre le cadre et son collaborateur, à la fois sur l'appréciation des compétences des collaborateurs, sur la fixation de leurs objectifs professionnels, sur l'identification de leurs besoins en compétences, sur l'appréciation de leurs valeurs professionnelles, par, on le verra, la proposition d'un niveau de prime qui est versé annuellement au sein de la collectivité, et le cas échéant aussi par la proposition qui peut être faite d'une évolution de carrière pour le collaborateur. Donc la collectivité a investi largement sur la mise en place d'une formation obligatoire pour tout nouveau cadre à l'exercice de l'entretien professionnel. Nous y associons d'ailleurs également les gestionnaires de collège, hein, comme je l'ai indiqué préalablement, qui ne sont pas des fonctionnaires territoriaux, mais qui sont des fonctionnaires qui relèvent de l'éducation nationale, Mais comme ils sont amenés à gérer et réaliser les entretiens professionnels de nos agents d'entretien et de restauration qui travaillent dans le collège, nous les associons, au même titre que les cadres de la collectivité, à ces formations dans le cadre de l'Institut du Management Permanent. En tous les cas, cette formation sur l'entretien professionnel. Alors, l'Institut du Management Permanent propose également d'autres formations managériales qui sont à la fois plus classiques, comme réussir sa prise de fonction d'encadrant, la négociation, planifier son activité, mais également des formations sur des thèmes plus en lien avec l'actualité, le management à distance, notamment pour accompagner l'essor du télétravail, hein, qui est une réalité de plus en plus concrète au niveau de la collectivité, des formations également liées à l'approche systémique du management, des formations destinées à favoriser l'intelligence collective, bref, qui permettent à un moment donné de créer une synergie et une collaboration plus efficace entre le cadre et ses collaborateurs. L'Institut du Management Permanent, toujours sur ce volet de l'accompagnement des compétences, organise également des colloques ou des séminaires à destination des cadres sur des grandes thématiques d'actualité, que ce soit alors dès l'origine en 2013 sur la mise en place de l'entretien professionnel, par la suite également un séminaire sur notre politique en faveur du maintien dans l'emploi et du recrutement des personnes handicapées, et par exemple, pour en citer un autre, un séminaire sur la conduite du changement. Donc, il s'agit là du premier volet de l'Institut du Management Permanent qui permet d'accompagner les cadres en termes de compétences dans l'exercice de la responsabilité managériale. Mais l'Institut du Management Permanent, comme je l'indiquais, repose également sur un deuxième volet, celui qui donne, on va dire, des outils aux cadres pour exercer réellement leur responsabilité managériale. Donc, parmi ces outils qui sont mis à disposition des cadres, on note, je dirais, l'un des outils fondateurs qui est l'entretien professionnel, encore une fois, parce qu'il est un moment privilégié d'exercice de la responsabilité managériale, avec des conséquences notamment sur la carrière des agents en termes de promotion. La mise en place également, deuxième outil, hein, la mise en place d'un régime indemnitaire en 2014 avec la création d'une prime annuelle variable en lien avec l'appréciation de la valeur professionnelle des agents et dont le niveau est déterminé par proposition du responsable hiérarchique direct. Donc il y a un engagement fort à un moment donné du responsable hiérarchique sur l'appréciation de la valeur professionnelle de ses agents. Autre outil qui sont mis à disposition des cadres, la mise en place d'enveloppes budgétaires déconcentrées sur différents postes RH, entre guillemets, donc que sont par exemple les frais de déplacement et le recrutement de contractuels pour faire face à l'absence de titulaires momentanément indisponibles. Donc, dans le cadre de ces enveloppes dédiées avec un montant maximum, chaque cadre organise à un moment donné et priorise ses décisions dans le cadre de l'organisation du travail liée à des déplacements de ses collaborateurs ou dans la décision de remplacer ou non un collaborateur par rapport au budget, à l'enveloppe globale qui lui est affectée. Donc, tout l'objectif à un moment donné de ces outils consiste à responsabiliser les décisions prises par l'encadrement sur différents champs de politique RH. J'aurais pu citer également toute justification liée à des demandes de recrutement lorsqu'un poste devient vacant. Donc voilà, il y a vraiment à un moment donné un engagement fort de la responsabilité managériale à travers une déclinaison d'outils qui émergent dans le cadre de cet institut du management permanent. Donc pour résumer, tous ces outils permettent, vous l'aurez compris là aussi, de concrétiser le partage finalement de la fonction ressources humaines qui donne tout son sens à une véritable responsabilité managériale. Une responsabilité managériale sans partage de la fonction ressources humaines aurait finalement que peu d'effets.
Nicolas, notre émission touche à sa fin. À l'appui de cette expérience, quels conseils et mises en garde souhaiteriez-vous partager avec les collectivités souhaitant se lancer dans un projet similaire?
Alors, un conseil tout d'abord, c'est de ne pas hésiter à se lancer si toutefois les conditions sont réunies, parce que c'est un beau projet qui donne véritablement une dimension importante et nouvelle, intéressante à la direction des ressources humaines. Alors, les conditions, effectivement, il faut qu'elles soient réunies hein, pour se lancer dans ce projet. Quelles sont-elles? Tout d'abord, et ça me paraît essentiel, c'est un soutien fort. Hein, il faut un soutien fort de la direction générale pour légitimer ce partage de la fonction ressources humaines, qui est un attribut essentiel de la responsabilité managériale. Sans ce soutien de la direction générale, la mise en place de telles démarches s'avère compliquée. Et il aura du mal en tous les cas à prendre sur l'ensemble de la collectivité. Deuxième conseil, il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Une école de cadre, quelle qu'elle soit, ne doit pas constituer une fin en soi, mais un moyen, à un moment donné, un outil au service d'une finalité, une réponse à une problématique ou une stratégie à atteindre. Sinon, cette école de cadre finira par tourner dans le vide ou risquera de fonctionner hors sol, donc sans prise là aussi réelle avec la réalité de l'organisation. Troisième conseil, c'est que ben, finalement, cette évolution des pratiques a également des répercussions au sein même de la direction des ressources humaines. La mise en place d'une manière générale hein, de cette démarche prospective en termes de ressources humaines et de la mise en place de l'Institut de management permanent a modifié nos propres métiers au sein de la DRH. Je m'explique, à côté des métiers traditionnels liés à la gestion, se sont développées également des fonctions de conseil, d'analyse, d'ingénierie afin de construire à un moment donné des solutions et des parcours de formation. Sur l'accompagnement des compétences, nous avons élaboré des cahiers des charges pour construire justement hein, des parcours de formation managériaux. Et d'ailleurs, le CNFPT est un acteur essentiel de la mise en œuvre de celle-ci. Donc, encore une fois, ne pas négliger à un moment donné les répercussions en interne sur l'élévation du niveau de compétences au sein même de la direction des ressources humaines pour accompagner, on va dire, l'ensemble de la mise en place de cette démarche. Dernière condition ou point de vigilance, c'est une maturité managériale. En effet, la mise en place de telles démarches ne se décrète pas, mais traduit à un moment donné un engagement constant et régulier dans les relations entre justement la direction des ressources humaines et les directions opérationnelles. La DRH doit aussi évoluer et n'est plus perçue uniquement hein, comme un service prestataire, mais comme un partenaire au service de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors cette maturité et cette nouvelle donne hein, entre les relations entre la DRH et les directions opérationnelles se concrétise également par un réel partage de la fonction ressources humaines. On l'a vu tout à l'heure avec la mise en place des outils qui permettent à chaque cadre de pouvoir exercer ses responsabilités managériales, notamment sur des champs de ressources humaines. Cette maturité s'incarne également par un système intégré où l'ensemble des politiques sectorielles de ressources humaines, que ce soit la gestion des effectifs, le recrutement, le développement des compétences, mais également la politique indemnitaire, les promotions, l'ensemble de ces politiques sont déclinées en cohérence entre elles dans le but d'atteindre des objectifs initialement fixés par la collectivité départementale. Et en ce sens, effectivement, ces démarches d'école ou d'instituts de management sont des réponses, et non pas une finalité, mais sont bien des réponses à un moment donné à une volonté stratégique d'engager la collectivité sur une adaptation nécessaire et constatée par la mise en place de politiques publiques. Donc voilà, c'est effectivement une démarche intéressante, mais qu'il ne faut pas sacraliser comme étant une finalité en soi, et toujours en réponse à un moment donné, en lien avec la stratégie de la collectivité. Donc c'est à mon sens en tous les cas un élément qui permet de garantir en tous les cas la pérennité de ce type de démarche.
Ouais, écoutez. Ouais. Merci Nicolas Sill. Je rappelle nos auditeurs et auditrices que vous êtes directeur de ressources humaines du département de la Moselle et que votre direction dispose d'un institut de cadre et d'encadrant interne conçu et réalisé par votre collectivité.
Merci Jean-Michel.
Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que nous avons répondu à vos questions. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
De vive voix, nos territoires prennent la parole.